Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'Autre Radio
et l'association Lecture en tête.
Bonjour et bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête, une émission littéraire, mais pas que. Je m'appelle Fabienne et je suis lectrice adhérente à l'association Lecture en tête de Laval. Je reçois aujourd'hui Chloé Ronsard-Lemat pour ce nouveau numéro. Bonjour Chloé.
Bonjour Fabienne.
Nous sommes très heureux de t'accueillir, Chloé, sur Laval, en résidence d'écriture, pour ton deuxième roman. Quelques mots peut-être déjà sur ce qui est en gestation, ce qui s'écrit peu à peu.
Oui, alors je suis absolument ravie de me retrouver à Laval pour cette résidence d'écriture. C'est ma toute première résidence. Et effectivement, je suis en train de travailler sur mon deuxième roman. J'en suis à peu près à la moitié en ce moment. Et c'est un roman qui se passe en entreprise, qui parle d'une journée à l'intérieur d'une entreprise de sécurité informatique. Parce que je suis très intéressée par les nouvelles technologies et ce que ça peut faire à nos existences. C'était quelque chose qui existait déjà dans mon précédent roman qui s'appelle Anna Partout. Et là, donc, l'idée, c'était de vraiment dérouler cette journée au plus près, de l'explorer un peu sous toutes les coutures, heure par heure, voilà, de façon chronologique. Et ça donne un espèce de huis clos qui est enfermé à la fois par leur espace physique, parce que ça se passe quasiment que dans le bureau de cette société, et aussi par la temporalité de la journée. Donc voilà, ça donne quelque chose d'assez intéressant, qui fait quelque chose d'assez intime finalement, très centré sur le ressenti et ce que ça peut faire le travail et la place que ça peut prendre le travail, à ce que ça fait à notre esprit finalement, notre façon de réfléchir, les choses qu'on vit. Qu'on vit au quotidien. Voilà, donc je suis ravie de faire ça ici et j'espère que ça sera bien.
On retrouve déjà des éléments dans ce deuxième roman que l'on avait déjà dans le premier. Je trouve que cette idée de huis clos et d'enfermement, de tourner à l'intérieur, d'explorer de mille manières différentes, ces perspectives-là, ces points de vue, c'était vraiment déjà un choix dans Anna Partout. Est-ce que tu peux revenir sur Anna Partout, cette histoire?
Oui,
c'est difficile.
Je vais. Alors, déjà, pour expliquer un tout petit peu l'intrigue, parce que je pense que ça permet de comprendre un peu ce que tu dis sur les points de vue et la façon d'explorer de plein de petites façons qui sont fragmentées comme ça, une perspective. Anna Partout, c'est l'histoire d'un homme qui fait une obsession très malsaine sur sa demi-sœur et qui va s'infiltrer dans sa vie en utilisant les moyens technologiques qui sont amenés par Internet et les smartphones et les applications. Donc en s'infiltrant en fait dans la webcam de son ordinateur, puis après dans ses réseaux sociaux dans un second temps. Et c'est vraiment, pour moi c'était vraiment un texte que j'ai voulu dans sa forme et à la fois dans son décor comme centré sur Internet, parce que c'est, je suis d'une génération, je suis née en 1989, j'ai grandi avec vraiment la grande explosion d'Internet à l'intérieur de nos vies au moment de l'adolescence. Et donc je voulais ça vraiment comme décor et comme approche formelle aussi pour le roman surtout. Ce qui donne cet aspect fragmentaire, par exemple, de la première partie du texte. Parce que Internet, surtout à l'époque, maintenant on est plus sur une approche image-vidéo qui prend le pas peu à peu sur le texte, mais on va dire de 1995 à 2009 en gros, Internet c'était vraiment beaucoup, de façon primaire, un espace de texte où les gens s'écrivaient des messages, on lisait des articles, etc., etc. Mais c'était des textes courts qui étaient fragmentaires comme ça. C'est la grande époque des blogs, etc. Donc il y a une grande part de la première partie du texte qui reproduit cette approche un peu blog, qui fait des petites touches comme ça, très très courtes et très très intenses aussi, parce qu'on cherche ce narrateur qui se rêve un petit peu artiste et qui écrit des choses sur Internet, qui essaye d'écrire un petit peu quelque chose qui voudrait être un objet littéraire à partir de cette obsession, de cette violence qu'il fait à cette jeune femme. Il explore ça sous une forme bloc comme ça, très très intense et très très, très, très coupée, quoi. Et ça donne effectivement cet aspect un peu kaléidoscope où on tourne autour des choses de plein de façons différentes. Il réécrit parfois les mêmes choses sous des angles différents. Voilà.
Et c'est très intéressant de voir ton regard sur l'écriture. C'est un mélange entre le décor et la structure,
oui.
Entre des petits points très particuliers, très méticuleux, très rigoureux, comme si on plongeait à l'intérieur. Et à la fois, cette ouverture à une structure, et tu aimes, tu apprécies particulièrement cette structure, cette forme qui se disloque et qui fait des choses fragmentaires. C'est des petits moments de vie ou des ersatz de...
Oui. Est-ce que je l'apprécie ? Je pense que je l'ai beaucoup lu, surtout.
C'est ça.
À un moment, parce que j'écrivais moi-même sur Internet, je lisais des gens qui écrivaient principalement sur Internet, donc c'était beaucoup des morceaux de texte, des débuts de texte ou des poèmes ou des choses comme ça. Et donc oui, ça occupait beaucoup de mon espace de lectrice, je pense, et donc ça explique aussi pourquoi j'ai été vers ça. Un autre aspect que ça donne, cette structure un petit peu fragmentée comme ça, c'est qu'on se met à chercher, c'est un peu un jeu de pistes,
oui.
Quoi. Et c'est un peu un Lego aussi, c'est-à-dire qu'on peut, le composer, le défaire et le recomposer de plein de façons différentes. Je pense que c'est voulu, c'est un texte qui peut se lire voilà, en feuilletant sans forcément lire toutes les bribes, tous les paragraphes, et peut-être ça donne quelque chose d'un petit peu différent. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup de polars, notamment Agatha Christie, voilà, j'ai un peu grandi avec ça. Et aussi, dans les années 90, on avait des livres pour les enfants qui s'appelaient Le livre dont vous êtes le héros,
voilà.
où on passe comme ça de plein de passages, et c'est le lecteur, la lectrice qui choisit... qui choisit un petit peu ce qu'il va lire ensuite.
Ça me faisait penser, en fait, en lisant, moi je me suis plongée dans La maison des feuilles de Danielewski.
J'allais dire, oui, texte à clé après.
Voilà, donc, texte à clé. Oui. Et c'est vraiment assez troublant d'être dans ce dédale et d'arriver avec ces tout petits morceaux éparpillés à une traque. Et à la fois, donc c'est le mélange entre ce que tu as choisi comme exergue de ton livre en première partie, le Lolita de Nabokov, et forcément cette idée de narrateur non fiable auquel on va s'attacher. Alors ici, c'est pas un Berimbert, mais c'est un autre narrateur auquel tu n'as pas donné de nom d'ailleurs.
Oui. Je suis contente que tu parles à la fois de... Alors, La Maison des Feuilles, je ne l'ai pas lue, mais on m'en a beaucoup parlé. On m'a beaucoup parlé, effectivement, de textes à clé. J'ai eu une phase où j'ai beaucoup apprécié des textes qui s'apparentent un petit peu à ça, comme par exemple David Foster Wallace ou Roberto Bolaño, ou des choses comme ça. Mais vraiment, effectivement, un texte central pour moi dans ma compréhension de ce qu'on pouvait faire avec la littérature et aussi du danger que ça peut représenter la littérature, c'était Lolita et Nabokov. C'est pour ça que c'est que ça ouvre le roman, enfin voilà, le vrai incipit,
voilà.
De Lolita, qui n'est pas celui qu'on cite souvent,
Lolita,
etc., qui est très poétique
et très sensuel
et très dans le danger,
oui.
de ce narrateur,
oui.
Humbert qui est qui cherche à nous capturer comme ça dans son obsession par la poésie et par l'esthétique de la littérature et par la beauté de la littérature, et à nous faire accepter les choses qu'il fait et à les justifier, et à la fois à nous emporter dans sa mélancolie et dans son... et à même déclarer parfois sa culpabilité aussi, voilà, par une espèce de dispositif qui va utiliser le beau et la sensation pour faire accepter des choses qui sont fondamentalement inacceptables et fondamentalement horribles et immorales. Donc j'ai lu ça, j'avais 19 ans, je pense. Mmh. C'était vraiment un grand choc pour moi. Et au début, quand j'ai commencé à écrire Anna Partout, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que c'était...
c'était lié ou...
Que c'était ça que j'étais en train de faire ou de refaire ou quoi que ce soit. Il y a une différence quand même assez fondamentale entre le livre de Nabokov et ma posture à moi en tant qu'autrice, c'est que Nabokov, il écrit ça, il est évidemment du côté de Lolita, et on ne l'a peut-être pas assez dit, il y a une lecture qui se fait de son texte qui n'est pas forcément...
Qui est faussée.
Qui est un peu faussée par la façon dont on a pu l'apercevoir dans la pop culture, par exemple, dans les années 2000, avec la chanson de Mylène Farmer, le film de Kubrick, etc. Mais ça reste un homme blanc, auteur, d'un certain âge, etc. Alors que Anna Partout, pour moi, ça me paraît très clair dès le début que, évidemment, je suis plutôt du côté de la victime dans cette affaire. Enfin, voilà. Je suis...
Et à la fois...
C'est... Je suis une jeune femme du même âge qui sans doute a vécu des choses un petit peu similaires, même si c'est pas une histoire personnelle, mais je prends le parti de faire ce narrateur qui est l'agresseur, alors que évidemment je suis de l'autre côté personnellement, tu vois.
Oui.
Donc ça fait pas exactement la même chose, je pense, dans la posture quand même.
Et à la fois on te suit comme, enfin, on te suit comme on suivait Humbert Humbert aussi. On suit ce narrateur Anna, et à la fois on est perdu dans ce miroir. Bon, il y a un objet à l'intérieur du livre qui est quand même le miroir. Je trouve qu'il y a des objets qui te plaisent, qui te parlent énormément, qui te conduisent dans l'écriture. Est-ce que...
Alors, qui me conduisent dans l'écriture, je ne sais pas, j'y pense pas souvent comme ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des objets un petit peu abstraits, je ne sais pas comment dire. Même si ce sont des objets physiques, il y a des objets ou même des éléments de décor comme ça qui viennent pour moi, je pense, en tant que concept plus que comme chose réelle. Donc il y a le miroir, effectivement, il y a le maquillage, les fenêtres. Donc c'est des choses qui sont liées au regard et à l'image.
Je ne vous ai pas pensé à fenêtres sur cour, c'est marrant, de Hitchcock.
Oui, il y a ça, et effectivement, il y a Hitchcock à un moment dans le... Enfin, il y a la musique des films d'Hitchcock. Ma mère était, est toujours d'ailleurs, une très grande femme d'Hitchcock, et donc j'en ai vu beaucoup assez petite, et donc ça existe comme ça à l'arrière de ma tête, peut-être.
Il y a toute une richesse d'hypotextes qui est assez phénoménale dans ton livre. Moi, je trouve que je me suis reconnue sur beaucoup d'œuvres, et je trouvais ça très intéressant de voir qu'elles étaient aussi nombreuses et aussi appelées. Par exemple, de manière très, très intuitive, par Samy dans L'informaticien, et qui parlait de ce cheval de Troie, les gens qui sont sur Internet et qui savent en fait que cette expression est utilisée aussi. Enfin, mettre un cheval de Troie, et c'est se référer à quelque chose de la Grèce antique.
Oui.
Et donc on a ce dédale, on a à un moment, Samy dit clairement Thésée et Ariane. Alors, est-ce qu'Anna est Ariane dans ce fil?
Oui, ou peut-être que le narrateur est Ariane. Parfois, j'utilise comme ça des éléments d'histoire ou de mythologie en l'occurrence, mais ou des textes que j'ai pu lire ou des œuvres que j'ai pu regarder, etc. Mais pas forcément comme des choses qui vont être extrêmement signifiantes, c'est juste des choses qui existent. Mmh. Et je trouve que ça amène à un endroit sensible de les placer comme ça à l'intérieur du texte et de dire « Ah voilà, je vous rappelle que ça, ça existe dans la narration. » Par exemple, ça permet sur la scène dont tu parles avec Samy, qui explique en fait la façon, parce que Samy c'est un informaticien qui va aider en fait le narrateur à mettre en place le programme qui va servir à rentrer dans la webcam et dans l'ordinateur d'Anna pour pouvoir la regarder sans qu'elle le sache. Tout ceci est évidemment très très sombre et ne faites pas ça chez vous. du coup, c'est vrai que aller explorer un petit peu ce qu'il y a derrière comme élément mythologique dans cette expression le cheval de Troie, qui est une expression qu'on utilise en informatique pour parler des virus et des choses qui s'introduisent littéralement dans les ordinateurs. C'est une façon de rappeler que tout ceci est ancré dans une histoire littéraire, même quand on nomme des choses qu'on invente maintenant, enfin voilà, des objets modernes, et de les rendre un petit peu plus faciles aussi à comprendre à l'intérieur de ce dédale dont on parle et de cette structure labyrinthique. J'avais quand même un souci de dire, bon voilà, je veux que ce soit pas... J'aime pas forcément l'idée trop de dire on va faire un techno-thriller qui va parler de plein de choses un peu complexes qu'on va pas comprendre. Enfin voilà, l'intrusion dans l'intimité de quelqu'un et le schéma du labyrinthe, entre guillemets, c'est des choses qu'on comprend dès qu'on est enfant.
Des archétypes voilà, qui sont assez exactement. Ancrés. Voilà, tout à fait.
Et donc de les ramener comme ça dans l'écriture, ça amène une texture plus simple, je pense.
La texture.
Voilà.
J'ai trouvé tisser l'histoire des autres. C'est important chez toi de tisser cette histoire, de construire cette histoire. Et ça aussi, c'est très mythologique. Mais oui. je trouve que dans la construction et le fait de façonner l'œuvre, oui. de la reconstruire comme un puzzle, le livre puzzle dont on parlait tout à l'heure, c'est tisser l'histoire, la trame, le textum, le texte, de toute manière, cette trame. Et je trouve que ça se construit bien. L'ensemble se construit. Donc, tu as choisi trois parties pour ce livre.
Oui.
Partie 1, je ne sais plus. Partie 1.
Page.
Page. Ensuite,
partie
pixel.
Pixel.
Et paysage.
Et partie 3, voilà. Paysage, oui.
Oui, c'est ça.
Oui. Ça, c'est arrivé assez tard. Dans l'écriture pendant longtemps, j'avais juste des petits bouts de texte comme ça qui avaient des titres de parties parce que ça me permettait de naviguer un peu dedans pendant que je l'écrivais. Puis j'ai enlevé ça, j'ai gardé juste un triptyque comme ça qui pour moi permettait de séparer un petit peu structurellement les choses, puisque la partie 1 page, c'est la partie blog dont on parlait tout à l'heure. Ça correspond à une époque sur Internet qui court de leur enfance jusqu'à 2009 à peu près, si on doit situer les choses, enfin, ou un peu plus loin, 2012 je pense, quelque chose comme ça dans le temps. Et donc page, c'est les pages de blog, mais aussi c'est les pages d'un livre tout simplement. Voilà.
Pixel devient de plus en plus flou.
Pixel devient flou, et puis d'un seul coup, on passe à la notion de représentation et de l'image.
Oui.
Et là, on est vraiment sur un mot qui est un mot d'informatique et d'Internet, etc. Et paysage, c'est la fin, et c'est un peu... il y a une notion de... On recule un petit peu. Quand on va regarder, si tu passes du pixel au paysage, tu vois, il y a un truc un petit peu plus englobant comme ça.
Avec pixel.
Et aussi paysage, c'est c'est quelque chose qui n'est pas seulement l'individu, peut-être. C'est
la généralité,
l'universalité, les structures.
Sans dévoiler la fin.
Voilà.
Mais avec Pixel, les tu systèmes. Avais choisi en exergue Tartuffe. Donc oui. C'est l'hypocrisie.
Oui.
Aussi l'apparence.
Oui.
Ce faux dévot.
Oui.
Cacher ce sein que je ne saurais voir.
Oui. Alors, j'arrive plus à te la redire exactement comme ça, mais en plus, c'est non seulement c'est ça, mais c'est aussi quelqu'un qui fait une lecture de cette situation,
oui.
Citation-là, pardon, sur Internet, mais qui est pas du tout l'explication que moi non. Je donnerais s'il fallait expliquer cette. Donc c'est aussi de dire voilà bon une notion de qu'est-ce qu'on peut raconter sur Internet et à quel point on peut raconter à peu près tout et n'importe quoi, est-ce qu'on veut, et parfois des choses fausses. C'est une petite mise en garde aussi de cette nature-là, pour moi.
Et comment s'approprier.
C'est des petits espaces de plaisanterie que j'ai essayé de négocier à l'intérieur du livre, qui est quand même assez sombre
assez
dans
lourd.
Sa globalité. Et... voilà.
Oui.
Oui.
Oui, oui, je comprends. Est-ce que ce ne serait pas justement cette représentation, est-ce qu'on se dit peu à peu on s'écarte, peu à peu ça devient un peu plus abstrait, un peu plus lointain. Et je m'étais posé la question par rapport à la représentation, si on n'est pas dans une écriture qui serait sur la même voie d'abstraction qu'a pu connaître la peinture au siècle dernier, c'est-à-dire s'échapper petit à petit. Est-ce qu'il y a une nouvelle littérature dont tu voudrais faire l'écho?
Je ne sais pas si c'est une nouvelle littérature, mais je pense qu'il y a une part de moi qui a envie de mettre en littérature à un moment des choses que je n'ai pas forcément trouvées en tant que lectrice.
Oui.
Et donc ça, c'est sûr que ça existe. Est-ce que ça passe par l'abstraction comme a pu le faire la peinture? Je ne sais pas, parce qu'on a eu en littérature déjà des littératures qui se sont beaucoup plongées dans l'abstraction. Je pense aux nouveaux romans, etc., etc., qui sont des choses qui existent et que j'ai pu lire aussi, avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport à l'image quand même qui je pense est très central dans notre époque et qui transforme nécessairement la façon dont on réfléchit à comment on fabrique de la fiction, par exemple, parce que l'expérience de la fiction qu'on a de plus en plus, c'est des fictions qui ne sont pas des livres, mais qui sont plutôt des choses qu'on regarde, des films, des séries, etc., etc., et aussi des choses sur Internet. Des gens font de la fiction maintenant sur YouTube, sur plein d'autres plateformes, sans doute sur Instagram aussi. Je n'ai pas forcément d'exemple comme ça en tête, mais il y a des formes nouvelles et des formes intermédiaires comme ça qui se créent. Donc la question, c'est à quoi ça ressemble une littérature de maintenant qui s'intéresse à ces choses-là? Qu'est-ce que ça donne, quoi, simplement? Voilà, je pense que ça fait partie des choses que j'ai cherché à explorer dans ce texte.
On va faire une petite pause musicale. Tu as choisi Massive Attack.
Oui, absolument. C'est Massive Attack, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté pour écrire. Et donc la chanson qu'on écoute maintenant, ça s'appelle Inertia Creeps. Ça veut dire l'inertie rampe. C'est bien sombre.
Oui.
Voilà. C'est l'histoire d'une relation qui se passe assez mal. Voilà.
Aussi.
Can't enjoy, then you can inhale. Clearly, out of body experience interferes, and dreams are.
Alors, on se retrouve toujours avec Chloé sur l'autre radio pour une émission littéraire, mais pas que. Et son premier roman, Anna Partout. Si nous revenions sur ces idées de déclencheur d'écriture ou d'objets importants qui seraient comme des clés tout au long du roman, on se poserait la question d'une boîte, d'une baignoire, d'un miroir, de maquillage, d'objets comme ça qui pourraient nous aider et nous servir de boussole pour nous repérer et avancer dans soit la fascination que l'on aurait nous-mêmes pour Anna, de façon un peu perverse, malgré tout, ou de l'autre côté, sur ce questionnement et cette méfiance que ça pourrait nous donner sur le personnage narrateur qui est là et pour lequel on aurait un peu de dégoût. Est-ce que tu aurais des passages que tu souhaiterais nous lire?
Oui, on peut commencer à lire effectivement des passages qui rappellent un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les objets. Un que j'avais choisi moi et puis un que tu as choisi toi. Je vais révéler la vérité. J'ai rempli la baignoire presque à ras-bord. L'eau chaude a coulé longtemps du robinet en faisant un tube d'eau solide et blanc. La vapeur a recouvert le miroir. J'enlève mes chaussettes, mon t-shirt, mon jean, mon caleçon. Je regarde mon absence de reflet nu. J'enjambe le bord et je m'assois dans l'eau. Je tire le rideau. Petite cage. Le contraste de température entre l'eau et l'air rend le haut de mon dos frissonnant, là où la peau n'est pas encore mouillée. Je ramène les genoux contre mon ventre pour faire de la place. Et je m'allonge en arrière, je mets la tête sous l'eau. J'ouvre les yeux. Le plafond remue en vaguelette et l'ampoule se balance au bout de son cordon. J'ouvre la bouche, l'eau brûlante sous ma langue, contre mon palais, partout. J'entends le bruit de mon sang, le flux et le reflux, les pistons d'un train à vapeur. Je compte les battements comme on compte les secondes. Je ne pense à rien. Je ne suis nulle part. Certains matins, je ne me réveille pas et je reste le front accroché à l'oreiller à revoir la bretelle d'Anna tomber de son épaule et elle la remettre. C'est une bretelle noire de tissu fluide, de la soie ou du satin ou du lin et du macramé ou que sais-je. Et je dis revoir car à ce moment a l'air d'un souvenir, de ceux qui sont sans prise sur la mémoire, mais naviguent à travers elle, fissurés d'un bord à l'autre, des épaves. Et mon rêve se rembobine et infiniment la bretelle tombe et Anna la remet, mais pas complètement. Ses doigts n'ont pas tout à fait fini de lâcher la bretelle, l'annulaire est toujours passé dessous. Le geste ne s'achève pas, car cela mettrait fin au rêve. Et je reste coincée dans ce monde étroit et vertigineux qui ne consiste qu'en l'épaule d'Anna, et un morceau de tissu qui étire le temps.
Ah, c'est juste merveilleux et tout doux, et une grande sensualité. Moi, c'est ce que je retrouve en fait dans tout ce que tu as dit là. Et à la fois, on navigue entre sensualité et perversité. Et c'est assez particulier, assez dérangeant, assez déstabilisant. On peut avoir le livre qui nous tombe des mains rien qu'à penser à cela, et à la fois, il nous accroche comme ton personnage, le narrateur qui s'accroche à Émilie, je crois, et qui la tient fermement et qui n'arrive pas à se décrocher d'elle dans un passage. Il y a quelque chose d'assez...
Oui, il y a quelque chose de non-consensuel presque. Je pense que c'est ça que tu vers lequel tu vas. Enfin, j'ai l'impression un petit peu dans le... dans la façon dont ça peut nous attraper l'esthétique comme ça d'une phrase, le rythme d'une scansion, enfin voilà.
Oui.
Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti moi en lisant, c'est mon expérience de lectrice derrière un petit peu.
Oui.
Et à partir du moment où j'ai compris que ça existait et comment ça fonctionnait, tu vois, j'étais un peu obligée aussi, ça m'oblige aussi en tant qu'autrice, c'est un peu amusant comment ça fonctionne, à explorer, quoi, parce qu'une fois que j'ai mis le doigt dessus, je ne peux pas ne pas essayer de faire ça et de l'expliquer aussi un petit peu et de le montrer. Je pense qu'il y a une part de ça dans le texte, c'est de dire, moi, j'ai eu des moments de grand amour. On parlait de Nabokov tout à l'heure, mais il y a d'autres textes. Enfin, voilà. Et où j'ai pas forcément l'impression d'avoir trop choisi de les aimer et pourquoi je les aimais. Et donc, c'était intéressant d'essayer de faire ça ou de refaire ça ou de m'expliquer à moi-même finalement comment ça fonctionnait ça et et par quoi ça passe. Et finalement, ça passe par ma sensibilité personnelle par rapport à quel type de poésie je peux trouver dans une phrase.
Oui, et la musicalité.
Voilà. La musicalité.
Le rythme.
Je disais tout à l'heure que je lis à voix haute en écrivant, voilà, pour aller chercher justement cette musique qui va attraper et qui va pas lâcher. Oui,
il y a quelque chose de ça. Fluidité, oui, voilà,
cette fluidité, ou quelque chose d'un peu heurtant, ça dépend des moments, mais
oui,
peut-être un peu des deux, tu vois, ça navigue entre l'un et l'autre. C'est
le gueuloir de Flaubert.
Oui, beaucoup de gens disent ça.
Ce besoin de porter en langue, de l'avoir en bouche.
J'ai fait avant de savoir que Flaubert le faisait. Voilà, maintenant je suis très heureuse quand les gens me disent le gueuloir de Flaubert.
Mais c'est vrai.
Mais
on y songe dans cette musicalité en fait, qui revient. Oui. Mais c'est un peu comme quelque chose de très maladif aussi, une petite voix intérieure.
Oui.
Ou alors du flux de conscience.
Ça marche très bien avec les personnages qui sont fous.
Voilà. Oui, c'est
ou
ça.
Qui vont vraiment pas bien, oui, c'est sûr.
D'un monologue intérieur qui... Et d'ailleurs, on se pose toujours
répétitif,
la question. Voilà.
Ouais.
Dans le livre, si on n'est pas tombé dans le panneau, si on ne s'est pas fait piéger,
oui.
si le narrateur... Qui est véritablement le narrateur,
oui.
Et comment... Est-ce qu'il n'y a pas un revirement de situation? Alors, on ne dira pas la fin, mais
oui.
Il n'empêche qu'il y a quelque chose où on perd pied.
Oui. Et quelque part, c'est un peu le but du texte. Donc moi, je suis assez heureuse,
oui.
Quand les gens me disent « Ah, j'ai eu la sensation de m'être fait attraper, quoi. »
Oui.
De m'être fait piéger, parce qu'à un moment, j'aimais bien le lire et être dans la tête de ce narrateur-là. Et j'ai dit « Bah oui, c'est ça que ça fait aussi, la littérature. » Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut prendre garde, finalement, à ce qu'on fait avec et à ce qu'on écrit et à ce qu'on pense pendant qu'on écrit. Et enfin, voilà,
tu disais tout à l'heure les dangers de la littérature.
Les dangers de la littérature, voilà. Les dangers au sens grandiose du truc, tu vois. C'est pas forcément que négatif, mais c'est aussi, ça peut être aussi négatif et dangereux, quoi.
Et donc, qu'est-ce que tu espérerais d'un lecteur moderne, d'un lecteur contemporain?
D'un lecteur ou d'une lectrice je sais pas si j'attends vraiment quelque chose de particulier, à part... Je suis heureuse quand j'ai eu des interactions, voilà, avec des lecteurs, des lectrices qui m'ont dit ça m'a fait quelque chose. Par exemple, ça m'a fait une claque. Et je trouvais ça bien, je sais pas. Tant mieux, je suis un peu désolée, mais aussi tant mieux.
Oui,
quoi.
Oui, ça fait
parce
réagir.
Que je transmets ma propre claque, finalement, quelque part. Et après, bon, voilà, chacun lit et il trouve... et le vit de sa façon personnelle. Tu vois, il y a des gens qui se sentent cédés à cette séduction-là. Il y en a d'autres qui me disent « Non, non, moi j'ai résisté jusqu'au bout et j'étais très heureux ou heureuse à la fin et j'ai poussé un grand ouf et voilà, parce que j'avais l'impression d'avoir eu raison, d'avoir résisté. » J'ai eu les deux expériences de retour. Quoi.
De retour de lectrice ou de lecteur. Est-ce qu'il y a plus de lectrices ou plus de lecteurs?
Je pense qu'il y a plus de lectrices.
Dans ton livre, tu sais.
J'ai eu en tout cas
plus de retour
de lectrices que de lecteurs, même si pas que, mais j'étais contente. Parce qu'une de mes inquiétudes, par exemple, c'était le sujet est vraiment très dur. Il y a un motif incestuel en plus par-dessus,
oui.
dont on n'a pas trop parlé, qui fait évidemment que c'était une expérience violente à écrire pour moi. Et puis c'est une expérience, je pense, qui contient de la violence en tant que lecteur ou lectrice à recevoir en fonction des postures des gens. J'étais contente de voir que malgré ça, des gens arrivaient à en retirer quelque chose de satisfaisant.
Oui.
Voilà, c'était important
pour
moi. Et
à la fois, peut-être qu'on s'échappe en disant rien de tout ça n'est réel.
Oui.
ce que tu écris aussi. Rien de tout ça n'est réel, c'est métaphorique.
Oui.
Et la beauté de la littérature est dans la métaphore. Est-ce qu'on garde quelque chose de... Alors, ce rapport au réel et à la fiction, est-ce que c'est un besoin pour toi toujours de faire communiquer les deux?
Oui, je suis très partisane de... J'ai envie de faire de la fiction et la littérature, ça permet d'aller chercher des choses qui, par définition, ne sont pas réelles. Et donc, c'est un espace, c'est un ouvroir de possible à partir du moment où on dit ça. Mais en même temps, il y a une espèce de confrontation au réel, que ce soit par les thématiques qui sont abordées ou même par l'ancrage dans cette espèce de génération Internet dont je parlais tout à l'heure.
Et dans la typographie même de
ton
texte.
Dans la typographie aussi, dans la forme que ça peut prendre, parce que parfois je fais des petits passages un petit peu qui sont presque du recopiage ou de l'imitation formelle de
Facebook.
La façon dont on peut écrire sur Facebook, sur Twitter, et même ce qu'on peut... la façon dont on peut voir des vidéos sur YouTube, enfin voilà. C'est une façon de... En fait, j'ai plus l'impression d'être en train de composer avec plein de choses réelles, une espèce de foule de choses réelles et d'objets même réels,
et à
ce
la
dont
fois,
on parlait tout à l'heure, mais pour aller vers quelque chose qui n'est pas réel,
tu brouilles,
qui sert à expliquer des choses... faire ressentir des choses et réfléchir au-delà des limitations de nos corps et de nos vies, et voilà.
Très bien. J'avais retenu « Anna est une surface lisse dont on a effacé tout le grain, les rugosités au fur et à mesure ». J'aime bien cet effacement et à la fois cette manière d'exister. Écrire, c'est exister pour toi.
Écrire, c'est exister. Ah, je ne sais pas trop... Ah, ça c'est une bonne question, je sais pas, je saurais pas dire.
Je m'étais dit.
Mais l'effacement d'Anna dont tu parles là, c'est une phrase qui est au tout début du texte.
Oui, à la page 12.
Première page.
dans les premières pages.
C'est l'effacement d'Anna par le narrateur, en fait. C'est que finalement, c'est à la fois l'objet de son obsession et c'est à la fois personne pour lui. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de relations. Ils ont une relation qui est très qui s'est beaucoup distendue après avoir passé une enfance ensemble, une adolescence ensemble. C'est vraiment un objet abstrait pour lui. C'est pas du tout une personne. C'est certainement pas quelqu'un. Quoi, c'est une image. Le max qu'il arrive à l'apercevoir, c'est vraiment de la voir comme une image.
Et à la fois, il la voit en morceaux, c'est
toujours... Et en morceaux, et etc. Donc, c'est... Un des problèmes aussi, c'est qu'il cherche à... Il s'imagine qu'il va écrire quelque chose, et donc il est... Elle est le sujet de son texte potentiel. Une des façons de percevoir le livre, c'est de dire que c'est son texte potentiel à lui qu'il aimerait bien écrire, qu'il essaye d'écrire, des fois il arrive, des fois il arrive pas, et donc elle n'existe pas. Oui, et donc dans ce sens-là,
voilà.
Ça nous ramène à ce que tu disais, effectivement. Oui,
ça nous rassure, comme dans Paul Auster, les personnages, et dans le scriptorium, et cette idée du personnage à qui tu donnes une ampleur particulière et qui la prend là, véritablement dans ton texte. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot avec cette pierre.
Oui.
Et je trouve... C'est une pierre.
C'est une pierre. C'est une pierre, oui. C'est une pierre et on espère qu'elle va viser juste.
Voilà. Un bras tendu. Très bien. On va se quitter sur les derniers mots. Sur ce manque de physicalité, de matérialité, je trouve que c'est essentiel. Colimaçon, caméléon et cage. Si je ne gardais que trois mots de cette expérience de lecture, Chloé, ils auraient ce goût-là, tortueux en bouche, comme une faille, rappelé, rêvé, qui se dessine dans ma chambre d'écriture, ma chambre à moi. si je recourbe l'espace-temps autour de ma main et ma main autour de l'image d'Anna, est-ce que je passe à travers ? C'est toi, hein ? Page 163 pour ceux qui cherchent. J'ai l'impression de rentrer vers l'intérieur de moi et de ne plus me servir de mes yeux. C'est aussi toi, page 205. Ouais. Merci Chloé pour ces très riches échanges. Rendez-vous est pris sur la plateforme Flaroom, on n'a pas parlé de ça.
Ah oui, c'est vrai.
Pour la fabrique littéraire, tu
veux ? Absolument, oui, je vais en dire deux, trois mots quand même.
Oui.
Dans le cadre de la résidence d'écriture, j'ai proposé à Lecture en Tête, et ils ont accueilli ça avec joie, qu'on mette en place un espace de vieille internet un petit peu temporaire, voilà, qui est accessible jusqu'au 12 avril. Donc en fait, c'est un forum où vous pouvez venir... partager vos écrits, que ce soit de la fiction, de la poésie, des choses comme ça qui traînent dans des tiroirs, pour qu'on puisse les lire ensemble et puis peut-être s'en dire des choses. Voilà, c'est un petit brin de nostalgie pour moi, parce que c'est mon expérience d'écriture, elle a commencé par cet endroit-là, et donc le but c'est d'y revenir un petit peu ensemble et puis de voir ce que ça donne.
Et puis il y aura aussi des ateliers d'écriture.
Et il y aura absolument aussi des ateliers d'écriture en médiathèque à Laval et aux alentours à partir du 12 janvier, il me semble, et
d'accord,
jusqu'au 12 avril.
Des rencontres en bibliothèque et puis pour attendre
des
patiemment le festival.
Et on se verra au festival, absolument.
Du premier roman.
Voilà.
26,
et je redonne juste l'adresse de la plateforme du forum. Donc c'est fabriquelittéraire.flaroom.cloud. Et si jamais vous avez un doute, c'est sur le site de Lecture en Tête.
Merci beaucoup, Chloé.
Mais de rien, merci Fabienne pour ta lecture très précise et enrichissante.
Merci. Le deuxième morceau ?
Ah oui, le dernier. Morceau, on l'avait oublié. Absolument. C'est Running Up That Hill de Kate Bush. Et c'est pour une personne que j'aime de tout mon cœur.